Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Coralie Marabel, fondatrice de la marque éponyme Coralie Marabel. J'ai souhaité la rencontrer car elle a un parcours atypique, passé par une école de commerce, puis une école de mode, plusieurs stages dans les studios de maisons de luxe, avant de tenter le concours du Festival de Hyères. Elle y remporte le prix du public et profite de ce tremplin et de nombreuses opportunités de collaboration pour lancer sa marque. Elle démarre sur un modèle wholesale, accompagnée par le Designers Department de la Fédération de la Haute Couture, avant de bifurquer au bout de 4 saisons sur un modèle en vente directe, avec des drops mensuels via internet, des pop-up stores, pour aboutir il y a quelques semaines à l'ouverture d'une boutique. J'ai adoré interviewer Coralie, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner, et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode, je suis aujourd'hui avec Coralie Marabel. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Pour commencer, et comme je le fais systématiquement avec mes invités, est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Alors, je suis Coralie Marabel, ouais. Et j'ai 32 ans et je suis la créatrice de la marque éponyme Coralie Marabel.
Ok.
Voilà.
Très bien. Et la deuxième question, en général, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis tes études supérieures, depuis ton bac jusqu'à aujourd'hui, en fait ? Et puis, je vais t'interrompre plein de fois et,
okay.
Et on va se lancer comme ça.
Alors, en fait, moi, j'ai fait un bac ES classique.
Ouais.
Et après, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle l'European Business School,
ouais.
Qui avait un programme international qui m'a permis d'aller faire des stages et étudier à Barcelone, Madrid et New York. Mmh. Et après, j'avais toujours eu le souhait d'être styliste. Donc, j'ai réussi à intégrer Hermès en stage de fin d'études. D'abord en achat d'art sur
D'accord.
le magazine Le Monde Hermès.
Ouais.
Donc là, je travaillais sur la photo. Et après, j'ai commencé par être assistante styliste au studio Prêt-à-Porter Femmes d'Hermès.
D'accord.
Toujours Mais ça, en stage.
Toujours en stage sans avoir fait d'école de mode.
Sans avoir fait d'école de mode.
D'accord. Et, enfin, explique-moi comment tu fais la passerelle. Parce qu'en
Gros
général...
hold-up.
Ouais, c'est un scandale.
Alors en fait, moi, je faisais de la couture. J'avais commencé la couture à 8 ans. J'ai toujours fait de la couture. Au lycée, j'avais une pièce avec mon atelier de couture chez moi. Enfin, j'ai toujours fait ça et j'ai toujours dit que plus tard, je serais créatrice de mode.
D'accord.
Donc après l'école de commerce, je voulais absolument aller dans la mode.
Et Mais alors pourquoi ce choix d'école de commerce ? C'était la pression des parents ? C'était,
alors c'était
quoi ?
Pas la pression des parents, mais c'était, disons que plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu un élément déclencheur, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 17 ans.
Okay.
Et mes parents, c'était haute génération où la femme met sa carrière de côté pour travailler. Et quand tu vois à 17 ans ta mère qui se retrouve... avec plus rien, tu te dis non mais moi ça m'arrivera pas et je vais être une femme indépendante et je vais gagner ma vie.
Okay.
Et c'est vrai que le côté école de commerce est rassurant parce que tu te dis de toute manière je pourrais toujours retomber sur mes pattes, je pourrais toujours avoir un job, bien gagner ma vie, c'est un peu une sécurité.
Mmh.
Et j'avais aussi une famille plutôt créative avec où j'avais conscience que les métiers artistiques c'est pas facile et c'est un peu qui tout double.
Mmh.
Donc il y a un peu quelque chose d'incertain quand tu vas dans ces voies-là. Et voilà, et du coup j'ai fait le choix de l'école de commerce qui un peu me donnait un background un peu safe où je savais que j'allais toujours m'en sortir avec ça. Et il y avait aussi le côté, j'adore les langues, j'adore voyager, et le programme aller voyager et partir, quitter la France et aller vivre ailleurs, ça m'excitait trop.
Ouais.
Donc en fait, tout ça m'a poussée à commencer par une école de commerce,
D'accord.
tout en continuant à dire, je vais être styliste plus tard. Quoi.
D'accord. Et donc, le premier stage chez Hermès en acheteur d'art.
Ouais.
Tu peux rappeler aux gens, c'est quoi acheteur d'art ?
Parce que les gens ne comprennent pas trop l'achat d'art. En fait, c'est acheter toutes les prestations d'artistes qui vont faire pour faire des images. Hein. Par exemple, quand on fait un magazine, notamment le magazine Le Monde d'Hermès, il y a plein d'images. Donc, on fait appel à des photographes, il y a des textes, on fait appel à des écrivains, des journalistes, il y a des illustrations, on fait appel à des illustrateurs. Et tout ça, c'est négocier les droits d'auteur, organiser le shooting, faire les photos. Et c'est en ça qu'on appelle ça de l'achat d'art.
D'accord.
Donc, en fait, moi, je travaillais sur le magazine Le Monde d'Hermès. J'assistais deux acheteuses d'art, pardon. Et c'était super, c'était vraiment, on a travaillé avec Tim Walker, enfin c'était plein de...
C'était fou, ouais.
C'était fou, c'était du coup aborder la mode sous le point de vue de l'image, en fait.
Ouais, ouais.
Et là, tu avais déjà en tête l'idée que tu allais bifurquer sur un stage en stylisme. Tu avais préparé toute une stratégie.
J'avais préparé ma stratégie. À ce moment-là, j'ai fait un petit concours qui s'appelle le concours Elle Solidarité Mode pour gagner une bourse d'études d'école de mode. Ouais. Et j'ai eu une bourse via ce concours. Et en parallèle, en fait, j'assistais une styliste sur les shootings photos qu'on faisait, qui bossait, et à qui j'ai dit, moi, je veux être styliste plus tard. Je vais reprendre mes études en septembre prochain. Elle me dit, mais là, tu as 6 mois de creux entre ton stage à Chadar et le début de tes études de mode. Tu devrais faire un stage dans un studio de création. Je dis, oui, mais bon, avec mon CV d'école de commerce, personne ne voudra me prendre en stylisme. Elle me dit, je vais demander au studio femmes. On ne sait jamais s'ils cherchent un stagiaire. Et elle a demandé. Le directeur du studio m'a reçu. Je suis arrivée avec mon CV, pas de portfolio. Bonjour, je veux être styliste. Je voudrais faire un stage au studio. Et on a parlé, et au final, à la fin de l'entretien, il m'a dit, écoute, j'aime bien les profils atypiques, let's go. Donc je suis arrivée un peu comme une grosse imposture dans le studio femme. Les premiers jours, les stylistes m'ont fait la guerre. Ils se disaient, mais c'est qui cette nana? D'où elle vient? Pourquoi on nous met une nana d'école de commerce en assistante? Et en fait, ils ont vite vu que je savais coudre, que j'avais un regard, que je pouvais les aider. Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Mais c'était un peu un gros hold-up. Du coup, je suis arrivée en école de mode en ayant bossé 6 mois chez Hermès avec Jean-Paul Gaultier. Donc, super expérience.
D'accord. OK. Et donc là, ton école de mode, c'était le studio Berceau?
Voilà. Okay. Du coup, juste après cette année chez Hermès, j'ai fait le studio Berceau pendant 2 ans.
Ouais.
En plus de ça, j'assistais un des modélistes le soir et le week-end pour un peu renforcer mes compétences techniques.
C'est Mickaël, non?
Mickaël, voilà.
Et big up à Mickaël, salut.
Salut Mickaël. Et après Berceau, je suis allée chez Alexander McQueen pendant 6 mois en stage.
Oui.
Après, je suis allée chez Margiela à la ligne artisanale.
Et ça, c'était toujours dans le studio de prêt-à-porter?
Ouais.
D'accord.
Toujours au prêt-à-porter femme.
Okay.
Et après Margiela, je suis retournée chez Alexander McQueen pendant 1 an, toujours aussi au prêt-à-porter femme.
Et là, c'était du stage, c'était du CDD,
CDD.
C'était du... D'accord, ok. Très bien. Et qu'est-ce que tu retiens de ces stages, de ces années-là, de cet apprentissage?
Super souvenir. J'ai appris plein de choses très différentes dans chaque maison.
Ouais.
Chez Hermès, c'était un peu la découverte, donc c'était génial. J'apprenais le métier de styliste en live. Je travaillais avec des matières extraordinaires, avec un souci du détail et de l'excellence dans tout ce que tu fais. Enfin, chez Hermès, c'est toujours extrêmement raffiné. Donc c'est hyper intéressant.
Ça ressemble à quoi pour les gens qui sont pas dans les studios et qui ont jamais vécu la vie de studio? Ça ressemble à quoi tes journées quand t'es dans un studio? C'est beaucoup de recherche, beaucoup de maquettes, ça?
C'est beaucoup de recherche iconographique, de recherche de vintage, de recherche de couleurs. C'est des fittings avec
beaucoup
Jean-Paul Gaultier. On faisait à chaque fois des essayages et du suivi de prototypes. T'as reçu ton proto, tu vérifies qu'il est correct, tu le renvoies, de la relation avec l'atelier, parce qu'on travaillait avec un atelier tailleur flou et un atelier cuir, donc j'allais voir les ateliers, développer les pièces, etc.
Parce que ce qu'il faut bien spécifier, c'est que le studio de stylisme vraiment travaille sur la recherche iconographique. On fait des maquettes, on fait des recherches de vintage, etc. Mais on travaille vraiment main dans la main avec l'atelier.
Bien sûr.
Ce qu'on appelle les petites mains les couturiers.
Ouais, c'est ça.
Et vraiment, c'est un échange en permanence.
Ouais.
Et dans tes expériences, tu faisais t'étais modéliste ou pas du tout?
Alors,
ou vraiment, tu travaillais avec des modélistes en interne?
Ça dépend. Chez Hermès, c'était vraiment plus du travail de stylisme. On faisait pas du tout de modélisme.
Ouais.
On faisait pas beaucoup de maquettes textiles.
Ouais.
C'était vraiment du dessin, du choix de couleurs, de matières. Et après, on allait voir les ateliers et on développait.
D'accord. Donc, ils partaient vraiment d'un dessin, quoi.
On partait beaucoup de dessins et d'images.
D'accord.
Et donc, il n'y avait pas beaucoup de recherches textiles et maquettes, etc.
OK.
Chez McQueen, complètement l'opposé. Enfin, il y avait beaucoup de dessins aussi, mais c'était beaucoup, beaucoup de recherches de maquettes.
Ouais.
Et chez Margiela aussi, beaucoup de travail artisanal,
d'accord,
parce que c'était la ligne artisanale.
Dernière chose sur les différents directeurs artistiques avec qui tu as bossé. Chez Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui? Qu'est-ce qui t'a surpris?
ce que j'ai adoré avec Jean-Paul Gaultier, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper solaire et qui est tout le temps content et qui dégage une énergie de fou, quoi. Ouais. Et c'est toujours la fête. À chaque fois qu'on se retrouve, il est émerveillé partout, il est toujours content, il a un enthousiasme qui est assez génial et ça, c'est important parce qu'on le retrouve pas chez tout le monde.
Et chez Margiela, c'était qui à l'époque?
C'était Mathieu Blazy.
Ouais.
Et ça, c'était génial aussi. Une autre approche que j'ai adorée parce que très, vu que c'était la ligne artisanale, c'était très crafty, vraiment un travail hyper créatif. On partait de vintage, on les transformait, on créait des nouvelles pièces qui étaient complètement uniques. Donc c'était, pour moi, c'était le top du top de créativement parlant. Et en plus, humainement, c'était génial parce que moi, je sortais de chez McQueen où là, les relations humaines, c'était pas tip top. On bossait comme des tarés. On n'avait pas de vie privée et tout. Et puis c'était très mal managé, mal organisé.
Mais c'était à l'époque de Steve encore ou il était plus là?
Non. C'était à l'époque, c'était avec Sarah Burton.
D'accord.
Et avec Mathieu, si tu veux, ça m'a montré qu'on pouvait faire de la mode en étant organisé,
en
étant serein, en faisant pas de nuit blanche. Enfin, tu vois, la veille d'un défilé chez Margiela, on avait fini à 20h. On avait fini plus tard, à 20h, si tu veux. Ouais. C'est du délire quand tu sors de chez McQueen où pendant un mois, tu fais des nuits blanches la veille d'un défilé. Là, tu arrives et tu dis, en fait, c'est possible de faire des trucs hyper créatifs, de bien travailler dans un rythme sain,
normal
et sans être dans la souffrance, tu vois. Et ça, c'était génial. Ça m'a fait du bien, après McQueen, de vivre ça et de voir que c'était possible, en fait.
Et donc, après ces expériences-là, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Et alors, juste après ça, en fait, après l'année... Ensuite, je suis allée un an chez McQueen, où là, pareil, ça a été...
Hardcore,
mais dans les extrêmes, en fait. Hyper bien et hyper dur. Et juste après ça, moi, ça faisait des années que du coup, j'étais en stage, à l'école, que je bossais comme une tarée et que je bossais pour d'autres marques. Et j'avais besoin de là, de juste faire une pause et de refaire un projet personnel juste pour voir qu'est-ce que j'allais pondre maintenant avec tout ce que j'avais pu apprendre dans ces expériences. J'avais envie de créer quelque chose de très personnel. Et en plus d'enrichir mon portfolio. Et du coup, je me dis, je vais faire une collection. Et il y avait le festival de hier, il y avait la deadline 2 mois après. C'était toujours un des concours qui m'avait plus intéressée et je me suis dit génial, je vais me donner la deadline du concours, comme ça je passe pas un an à faire mon portfolio. Dans 2 mois, j'ai 2 mois pour pondre une collection, je l'envoie au festival de hier et si ça marche tant mieux, si ça marche pas au moins dans 2 mois j'ai un portfolio super et je cherche du boulot dans d'autres maisons. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pendant 2 mois, je me suis mis dans ma bulle. Je vivais encore à Londres. J'ai développé ma collection. Je l'ai envoyée au festival de hier. J'ai envoyé qu'une seule silhouette.
Ouais,
le reste, c'était que des dessins.
T'envoies qu'une seule silhouette en vrai vêtement.
Ouais. Okay. Après, tu peux envoyer des photos si t'as ta collection qui existe déjà. Ouais. Moi, j'avais rien. Du coup, j'ai envoyé que des croquis.
D'accord.
Et après, en parallèle, donc j'ai envoyé ça. C'était en fin novembre. J'ai commencé à passer des entretiens pour réintégrer des boîtes, des grandes maisons de luxe. Là, j'ai eu une proposition d'un super groupe, super marque, genre sur le papier, job de rêve. Et là, j'ai bloqué. J'ai incapable de dire oui à un CDI.
Pourquoi?
Parce que je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc, c'était pas pour moi en fait. En fait, on nous a éduqué toujours genre il faut avoir un CDI dans la vie, il faut avoir un CDI dans une entreprise. Et moi j'avais un peu genre mon objectif c'était d'être styliste, d'aller dans des grandes marques de luxe pour me former. J'avais coché ces cases. Et là j'arrivais à la case CDI et je dis non mais en fait c'est l'angoisse, c'est pas ça que je veux. Et du coup j'ai refusé cette belle proposition et j'étais hyper soulagée, ne sachant pas ce que j'allais faire après. Et après j'ai passé d'autres entretiens, j'avais d'autres opportunités dans des grandes maisons et j'ai appris que j'étais finaliste pour le festival de hier. Donc là je me suis dit bingo, moi j'ai toujours rêvé le faire, donc je vais mettre en stand-by les process de recrutement pour faire le festival de hier. Et ça a marché, et j'ai gagné le prix du public. Et de là, tout de suite, j'ai eu des propositions de freelance, de collab. Et en fait, le mois après le festival de hier, ça y est, je commençais à gagner ma vie grâce à la notoriété que j'avais eue avec le festival de hier. Ça m'a amené plein de projets. Et je me suis dit, tant que ça marche, tant que je gagne ma vie, je continue. Et donc, j'ai commencé avec des freelances, des collabs, avec Jo Malone London, avec La Redoute, avec plein de projet pendant un an, comme ça, où j'ai été débordée de boulot, de projets. Et je disais, bah, tant que ça marche, continue.
Ouais.
Et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Designer Apartment, qui était un showroom organisé par la Fédération de la Couture pour aider les jeunes créateurs émergents à présenter leurs collections pendant les Fashion Week.
Ouais.
Et du coup, il fallait concrétiser les choses, donc il fallait vraiment créer la marque, parce qu'en fait, pendant un an, par exemple, quand je faisais des collabs avec La Redoute, j'avais pas de marque. J'utilisais mon nom comme une marque, mais j'avais pas du tout créé ma marque. Mmh. Et ce que j'avais présenté au festival de hier, c'était pas du tout pensé pour être
une marque.
C'était juste.
C'est un portfolio, quoi.
C'était un portfolio.
Ce que t'étais capable de faire, quoi.
Voilà. Et ce que c'était purement pour m'amuser créativement. Ouais. Et ça s'est retrouvé sur le devant de la scène, comme ça, comme si c'était ma marque, mais c'est pas du tout pensé comme ça.
Ouais.
Et donc après un an après, j'ai dû vraiment créer vraiment la marque pour pouvoir présenter des collections pendant les Fashion Week et commencer à commercialiser.
Donc il y a vraiment eu un an. Tu vas super vite là, mais
ouais.
En fait, en même temps que tu me parles, je pense et je me dis mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse le festival de hier. Ça t'a mis le pied à l'étrier de malade mental.
Moi, je suis assez fan des concours et j'en fais plein. J'adore.
Ouais.
Et je trouve que c'est des super exercices parce que ça te t'apprend même que tu gagnes ou que tu perdes, tu vas vachement gagner personnellement. Tu vas apprendre plein de choses. Ça va te faire progresser, avancer, te trouver. Enfin, tu vois, c'est.
Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que t'as été prise, tu penses, enfin que t'as été sélectionnée pour la finale? Parce que en général, on dit le festival de hier, il faut présenter deux ou trois fois un dossier avant d'être sélectionné. C'est quand même assez long. Qu'est-ce qui fait que tu as été sélectionné, toi?
C'est difficile. Je pense que comme tous les concours, tu n'as aucune maîtrise parce que ça dépend du jury et ils changent chaque année, de leurs envies, de qui t'aura en face de toi. C'est un peu une alchimie. Tu sais pas ce dont le jury aura envie ce jour-là.
Ouais.
Tu sais pas quels seront les autres concurrents.
Ouais. Et c'est qui le patron du jury à l'époque?
C'était les DA de Kenzo.
D'accord.
Et moi, je pense que j'avais vraiment pris un parti pris très fort.
Ouais.
Et c'était une collection inspirée des bergers iraniens des années 50, avec une silhouette très prononcée, avec des chapeaux hyper pointus, des silhouettes très architecturales. Donc, c'était un parti pris qui était très fort et très assumé. C'était toute la collection autour des bergers iraniens, avec des textures autour de la laine de mouton. Enfin, il y avait un truc.
Mais qu'est-ce que tu racontes comme histoire devant le jury? Parce que t'es pas iranienne, enfin t'es pas d'origine iranienne, peut-être, enfin si, peut-être,
non.
Je sais pas.
Non, mais tu peux t'inspirer de tout et
de
n'importe
ce que
quoi.
Tu veux, ouais.
Et là, en l'occurrence, moi j'avais eu un flash sur une image de berger iranien des années 50 et j'ai bloqué sur cette image et ça a été le point de départ de ma collection. Et de là, j'ai fait des recherches sur les textures de peau lainée, donc j'ai voulu créer mes propres textures inspirées de la peau de mouton. Et donc, de fil en aiguille, enfin toute ma collection était autour de cette image de berger iranien.
Mais c'est colossal comme travail. Je pense pas que les gens se rendent compte. Ça prend un temps fou de faire ta collection. Tu les as fait faire ou t'as tout fait toi-même?
J'ai tout fait moi-même.
Ok.
En un mois et demi.
Donc t'as bossé nuit et jour. Mais t'avais été à bonne école juste avant avec avec les maisons, quoi.
Ouais.
Et ça coûte aussi un peu d'argent tout ça. Comment tu t'es financé?
Je me suis toujours auto-financé dès le début. La première collection, en fait, j'avais juste fait la première silhouette. Après, c'était des croquis. Et quand t'es sélectionné au festival de hier, t'es sponsorisé.
D'accord.
Il y a Première Vision qui te sponsorise, donc tu peux aller voir tous les super fabricants de tissus, d'accessoires, et leur dire bah, je veux tel tissu, tel bouton, tel machin, et tu as tout gratuit.
Ouais.
Donc en fait, tu as un peu de coût de développement de tes pièces, mais vu que moi, j'ai tout cousu moi-même, j'ai pas eu beaucoup. Je me souviens plus combien ça m'a coûté la première collection, mais c'était pas délirant, quoi.
Ouais, c'était pas fou. Et donc ça t'a amené plein de business, enfin plein d'opportunités en freelance. Ouais. Il me semble que tu avais une collaboration avec Jo Malone.
Ouais.
C'était quoi concrètement?
En fait, c'était un petit truc. Je devais faire des bijoux pour le lancement d'un de leurs parfums.
D'accord.
À Paris.
Ok. Et après, t'as eu La Redoute.
Ouais. Deux fois.
C'est le rêve de gosse de beaucoup de stylistes. Hein. À chaque fois, les gens ils disent quand ils font une collaboration avec La Redoute, c'était. Ça leur rappelle leur enfance, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, j'imagine que ça, c'était cool. Ça t'a apporté vachement de business, non? C'est quoi le... Tu peux peut-être pas en parler, mais le deal avec La Redoute, concrètement, financièrement, ça se passe comment? Tu prends un pourcentage des ventes?
Ouais.
C'est une commission?
C'est les deux. T'as un fixe et un variable en fonction des
D'accord.
ventes.
Ouais.
Donc ça, c'est assez chouette, parce que si ça marche bien, t'as un bonus après, quoi.
Et les projections qu'ils font sur les ventes, c'est au doigt mouillé. Comment ils font globalement, ça marche toujours relativement bien. Quoi.
Non, je pense que c'est variable selon les créateurs, ouais. selon les saisons. Ouais. Je ne saurais pas te dire comment ils font leurs pronostics, ouais. etc. Et...
Mais il faut que j'aille voir les gens de la Redoute, je vais les interviewer.
Ouais, non, il faut aller les voir, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça génial, leur démarche. De... Parce que ça, moi, c'était génial. Je sortais du festival de hier, ouais, j'avais pas lancé ma marque. Et là, on me propose de faire une collab avec la Redoute. C'est genre...
Incroyable.
Ouais. Incroyable, c'est de faire genre j'ai une marque alors que j'en ai pas.
Ouais. Et donc là... Tu lances ta marque.
Ouais.
Explique-nous alors les premières étapes du lancement de la marque. Tu commences par quoi? Tu t'entoures de qui? Explique-nous tout ça.
Alors en fait, au début, je crois que j'avais juste une stagiaire avec moi qui m'aidait. Et en fait, j'ai concrétisé vraiment, j'ai créé la société à proprement parler, donc pour le côté administratif. Et en fait, à ce moment-là, ça faisait déjà un an que je bossais en freelance et que je faisais des collabs et j'étais débordée de boulot. Et je savais très bien que je ne pourrais pas continuer longtemps toute seule et qu'il fallait que je m'entoure de quelqu'un pour gérer la partie business. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que 15 jours après avoir déposé les statuts de ma boîte, je déjeunais avec une copine qui était aussi entrepreneuse, qui venait de s'associer avec quelqu'un et on parlait de nos business respectifs. Et elle me disait à quel point c'est génial parce qu'elle s'est associée. Du coup, à deux, tu es plus fort, tu vas plus vite, tu vas plus loin, tu fais plus de choses. Et je lui dis, moi je sais très bien que je vais pas tenir très longtemps tout seul. Il va falloir que je me mette à chercher quelqu'un. Elle m'a dit, si tu veux j'en parlerai à mon associé, on sait jamais si elle a des potes que ça peut intéresser. Je lui dis, oui, tu peux lui dire, mais pas une seconde je me suis dit que cette phrase allait m'amener quelque part, tu vois. 15 jours après, j'ai Antoine qui m'appelle, qui me dit, salut, j'ai entendu parler de toi, moi j'étais consultant au BCG, j'ai démissionné, j'ai envie d'aller dans le luxe, la mode m'intéresse, ça m'intéresserait de te rencontrer. Et du coup j'ai rencontré donc Antoine Gaget, qui est devenu mon associé. On a commencé par une phase de test de 3 mois, et puis après ça y est, c'est parti, maintenant ça fait 2 ans et demi.
Trop cool.
Ouais. Et donc, j'ai eu la chance. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'il est arrivé au tout début de la création de la société, la marque vraiment concrètement. Quoi.
Ouais. Et comment vous avez trouvé votre l'alchimie? Comment vous avez trouvé votre place tous les deux? C'était très clair dès le départ? Vous vous êtes donné des guidelines dès le départ? Et expliquez-moi.
Ça s'est fait assez naturellement et au fur et à mesure. Déjà, nous, quand on s'est rencontrés, on a passé pas mal de temps à brainstormer, à partager nos points de vue. Lui, il est arrivé, j'étais en plein rush de préparation de la collection. On était en janvier. Fin février, je présentais ma première collection pendant la Fashion Week. Donc, j'étais en mode, je bourrinais. J'avais 2 mois pour prendre une collection à présenter. Je lui ai dit, OK, on se fait une réunion à 21h30 à l'atelier, à la fin de ma journée. Et je lui parlais de ma marque, de ce que j'avais déjà construit, de où est-ce que je voulais l'emmener, de mon univers, de moi. Donc on a pas mal échangé.
Et à l'époque, c'était quoi ta vision?
De la marque?
Ouais. Qu'est-ce que tu lui disais?
Bonne question. Mais
t'as un peu oublié.
J'ai un peu oublié ce que je disais, mais je pense que j'avais envie de créer une marque de luxe, d'avoir certaines valeurs dans le développement de mes vêtements, de faire des produits créatifs, de faire des produits bien fabriqués, d'avoir une exigence sur le détail, sur la finition, sur le choix des matières.
Et il comprenait tout ça, lui, parce qu'il venait chez BCG, qui est un cabinet de conseil en stratégie, c'est ça, hein?
Exactement.
Mais il était sur quoi? Sur du luxe? Il était sur quel type
il
de clientèle?
Il était sur pas mal de projets retail ou autres. Il n'était pas du tout spécialisé dans le luxe et la mode.
D'accord.
Mais il avait une affinité pour cet univers-là. Ouais. Et il était vraiment sensible à l'écoute et intéressé.
Ouais.
Et du coup, on a pas mal brainstormé comme ça. Et puis, on a commencé, en fait, où il venait à mi-temps, 2 jours et demi par semaine, pour tester, en fait. On s'est pas engagé tout de suite. On s'est dit, OK, on teste. On fait ça pendant 2-3 mois.
Donc en mode, on est en sous-marin, on teste, il n'y a rien d'écrit.
Il n'y a rien d'écrit. Ouais. On teste pendant jusqu'à la fin, le showroom après la Fashion Week, donc pendant 2 mois. Comme ça, lui, ça lui laisse le temps de voir si, de m'observer travailler, de voir s'il se projette dans ce projet. Et en même temps, il avait aussi le reste de la semaine pour aller passer des entretiens ailleurs et vraiment faire le tour un peu de ce qui les opportunités qu'il pouvait avoir.
Ouais.
Et moi, ça me laissait aussi le temps de passer du temps avec lui, de voir comment, qu'est-ce que ça serait de travailler tous les deux. Donc petit à petit, au début, il est arrivé dans l'atelier, il voyait un peu
Toutes les... Mais c'est hyper dur de trouver sa place parce que tu rentres chez quelqu'un.
C'est difficile,
quoi.
Ouais, ouais. Surtout que moi j'étais en période de gros rush, hyper stressée, hyper débordée. C'était hyper un fatiguée, peu en mode assieds-toi là et observe, tu vois. Ouais. Et petit à petit, je lui donnais, bah tiens, peut-être tu peux faire ça et m'aider là-dessus. Mm. Et au début, c'était pas facile parce que moi, au début, je gérais tout toute seule. Mm. Donc il faut lâcher des morceaux et déléguer. Ça, tu fais pas du jour au lendemain. Mm. Faut le faire petit à petit et ça s'est fait comme ça petit à petit. Il a pris la main sur des choses et ça s'est fait de façon hyper naturelle et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et vu que en fait ça, la répartition des tâches elle était assez évidente parce que lui avec une formation de consultant et d'école de commerce évidemment il allait pas dessiner à la collection et inversement et donc
mais toi tu l'avais aussi cette formation d'école
oui,
de commerce
oui mais c'est pas ça ma force quoi ouais. Et c'est ni ma force ni ce que j'aime faire donc moi c'était sûr que c'était la créa point barre
ouais d'accord
et la com.
Ok, donc au début, vous êtes parti sur un modèle wholesale via le Designer's Apartment, donc, qui est une initiative de la Fédération de la Haute Couture.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que t'as appris pendant... T'as été suivi quoi, pendant 3 ans,
on a fait 4 saisons.
4 saisons.
Ouais.
Donc, pratiquement
on a fait
4
saisons. C'était un super exercice parce que du coup, tu te retrouves à montrer ta collection à plein de gens, à plein d'acheteurs, à des journalistes. Donc dès là, tu montes ton travail et tu as vachement de retour. Donc ça, c'est un bon exercice.
Et t'as commencé à vendre dès la première saison ou non?
On a... Alors la toute première, je crois pas. Mm. Non, pas la première. Mm. Mais en général, c'est souvent le cas. Toutes les premières collections, t'es un peu... c'est genre le premier jet qui t'es pas connu. En fait, les acheteurs, ils détestent acheter les premières collections, ils ont peur.
Ils veulent voir.
Et ils veulent surtout voir si tu seras encore là la saison prochaine. Ouais. Parce que t'as beaucoup de créateurs qui se lancent sans avoir conscience dans quoi ils s'embarquent. Et ils font une, deux collections et puis ils meurent. Et pour des acheteurs, c'est pas possible.
Ouais.
Donc ils t'observent beaucoup.
Ouais. Donc tu parles avec eux, tu les rassures,
tu leur montres ce que tu fais.
Et à l'époque, tu avais combien de pièces que c'est... Au début,
j'avais
des collections très courtes.
20-25 pièces.
20-25 pièces, ouais. Ouais. C'est déjà quand même pas mal. Hein.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et
t'as vendu au bout de la
deuxième collection.
D'accord,
deuxième
collection.
On a commencé à vendre sur la deuxième, troisième aussi. Et en fait, nous, très vite, on a développé notre site internet pour faire de la vente online.
Ah ouais.
Peut-être 8 mois, enfin, dans l'année qui a suivi.
D'accord.
Et petit à petit, après, on a aussi développé la vente directe avec les pop-up stores, etc. Donc, en fait, on a commencé avec les trois. Et souvent, c'est un gros challenge de dire on va faire de la vente en wholesale, de la vente online et de la vente en direct. Donc, on s'était mis déjà un gros challenge. Et parce qu'on avait envie de tester un peu les différents formats. Enfin, pour nous, faire du wholesale, c'était important pour gagner en visibilité, avoir des points de vente à l'étranger, plus en termes de com aussi et de notoriété.
Ouais.
La vente online, pour nous, à l'époque, on était en 2016-2017. C'était indispensable d'être présent online, de pouvoir vendre en direct.
Ouais.
Et la vente en direct, c'était aussi nécessaire dans le sens où notre réseau parisien, les gens qui sont autour de nous, qui avaient envie d'acheter, on voulait leur vendre en direct. Mmh. C'est aussi comme ça que tu gagnes vraiment de l'argent. Donc en fait, on a commencé avec les trois. Mmh. Et petit à petit, en avançant, on s'est rendu compte que le wholesale qui se pétait la gueule dans le monde entier, on n'y croyait pas vraiment, que c'était très compliqué et que ça nous coûtait plus d'argent que ça nous en rapportait et qu'il y avait aussi le rythme effréné où tu dois pondre une énorme collection tous les 6 mois et que tu dois répondre aux souhaits de plein d'acheteurs. Enfin, c'est compliqué, tu vois, le wholesale. Et
qu'est-ce qu'il y a de vraiment de...
Ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, quand tu veux... pour pouvoir plaire à l'acheteuse japonaise et l'acheteuse
russe
du Moyen-Orient,
c'est pas
la même chose, c'est pas les mêmes produits.
Ouais, donc il faut que tu fasses une gamme très profonde avec plein de produits qui sont adaptés à chaque marché.
Donc tu dois faire des grosses collections parce que la japonaise, elle va pas prendre les mêmes produits que l'américaine et parce que à Dubaï il fait chaud, donc ils veulent des pièces légères et pas des manteaux en laine. Enfin, du coup, tu es obligé d'avoir des collections de plus en plus grandes pour essayer de toucher un maximum de marchés. Et ça, c'est un coût qui est énorme de faire des grosses collections. Et quand t'es petit et que tu débutes, tu prends beaucoup de risques pour vendre des petits volumes au début, tu vois.
Ouais, parce que mine de rien, il faut quand même les, il faut les financer, ces protos.
Il faut les financer.
Il faut, faut payer un modéliste voilà. Qui coûte
cher. Et puis il faut les faire aussi, tu vois, quand t'es une petite équipe, faire ouais, il faut 50 pièces tous les 6 mois, faut les financer, puis il faut les faire, il faut les développer, et tout ça en petit effectif, tu vois, donc c'est un travail de taré.
Et là, au début, t'autofinances tout grâce à tes...
à tous mes projets en parallèle.
Projets qui sont en parallèle. Donc tu as une double vie, en fait, hein, comme beaucoup de gens au départ.
Double vie.
Ok.
Du coup, tout en autofinancement au début, pendant un bon moment, grâce à tous ces projets de freelance et de collab.
Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Rapidement, vous laissez tomber le wholesale. C'était à partir de combien de temps ? Vous avez décidé d'arrêter le designer apartment et vous avez dit stop, basta.
Ouais. On a fait du coup 4 saisons et après on a dit stop. Du coup, on est sorti du designer apartment parce que ça avait plus de sens de continuer. Et donc c'était à Noël dernier. Du coup, on a décidé de se concentrer sur la vente directe et la vente online uniquement. Et du coup, de changer un peu notre stratégie de collection et de plus faire 2 grosses collections par an en suivant le calendrier officiel, mais de faire une collection capsule tous les mois, de quelques pièces tous les mois qui sortent. Et du coup, d'étaler un peu le processus sur toute l'année et de plus avoir 2 gros coups de rush.
Dans l'année,
ouais.
D'accord. Et ça, vous êtes inspiré de quoi ? Vous avez regardé quoi ? Comment vous en êtes arrivé là, en fait, ce rythme d'une collection tous les mois ?
Ça s'est fait petit à petit. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Du fait d'arrêter le wholesale, ça faisait longtemps qu'on en parlait. De se consacrer à la vente directe et du coup à ta cliente. En fait, quand tu te consacres à la vente directe, tu parles à ta cliente et plus aux acheteurs. Et ça, c'est un changement qui est hyper important, même dans ta com. Au début, on faisait des photos très mode parce qu'on voulait parler aux acheteurs. Mais quand tu les mets sur Instagram et tout, la cliente, elle ne se reconnaît pas forcément dans ces images-là. Donc, quand tu parles à ta cliente finale, du coup, tu as envie de lui proposer des choses régulièrement. Du coup, l'idée de faire des choses mensuelles prenait son sens. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que tu fais 2 collections par an. Donc, pendant 6 mois, tu vas parler de la même collection. En termes de com, c'est lourd, quoi. Et quand tu es sur de la vente directe, il faut que tu puisses parler à tes clientes régulièrement. Et pour ça, il faut leur parler de choses différentes. Et l'avantage de faire des capsules mensuelles, c'est que chaque mois, on leur raconte une histoire différente, avec des pièces différentes, avec des images différentes. Donc, on n'est pas redondant. Alors qu'avant, quand on faisait 2 collections par an, j'avais au bout de 6 mois où je parlais tout le temps de la collection de l'été dernier, j'étais là, j'en peux plus. Enfin, et puis mes clientes, enfin les gens qui me suivent, ils doivent plus en pouvoir de cette collection parce que ça fait 6 mois que je leur montre les mêmes pièces.
Les mêmes images, les mêmes pièces.
Les mêmes images, mêmes pièces.
Sur une suite différente, etc. C'est vrai que c'est un peu pompe, enfin ça pompe l'énergie.
À la fois pour moi et puis même pour les gens qui nous suivent.
Ouais.
Donc là, l'avantage avec ces collections mensuelles, c'est que on sort des petites collections capsules tous les mois. Donc on fait que quelques pièces chaque mois et puis c'est chaque fois une nouvelle histoire, des nouvelles choses à montrer, des nouvelles choses à raconter. Donc c'est jamais lourd en fait, c'est toujours des nouvelles choses.
Et ça dans l'organisation au quotidien, parce que on est vraiment dans du see now by now.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as produit, enfin quand tu le montes, t'as déjà produit ta collection. Donc ça veut dire que tu les anticipes le truc 2 mois, 3 mois à l'avance. Et comment ça se passe ? Explique-moi le calendrier un petit peu.
Alors en théorie, j'aimerais bien avoir 6 mois d'avance. En pratique, vu que j'ai eu un enfant au mois de janvier, c'est un peu tout chamboulé. Et là, je suis un peu en retard par rapport au planning idéal, on va dire. Mais l'idéal, oui, c'est de développer la collection, de pouvoir produire des petites séries.
Donc là, on part sur combien de pièces ? Une dizaine de pièces par mois, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça.
D'accord, ok. Donc des petites séries qui sont fabriquées en France, il me semble. Hein.
Tout est fabriqué en France, essentiellement à Paris.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de fonctionner sur des micro-séries. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
D'accord.
Et l'avantage, c'est vu qu'on travaille avec beaucoup de fabricants de façonniers à Paris, on est hyper réactifs, donc on est vraiment sur des tout petits stocks, et si on veut en lancer, on peut en lancer. Donc on ne s'engage pas sur des gros stocks, on ne prend pas de gros risques de stock.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous racontez comme histoire à tes clients, en fait ? Parce que comment vous avez expliqué le changement de rythme des collections, l'univers Coralie Marabel, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? La fille Marabel, c'est qui ? Parle-nous de tout ça.
Alors en fait, pour répondre à ta première question, l'idée de collection capsule mensuelle, on l'a réussi à l'introduire assez tôt, parce que pour justement, par exemple, sur la collection été 2017, donc c'était une collection que j'avais fait 6 mois avant, on a commencé à la découper en petites sessions tous les mois, et du coup, chaque mois, on racontait la collection, mais d'une manière différente, en mettant des pièces différentes en avant. Du coup, on avait déjà l'impression que c'était chaque mois une nouvelle capsule différente, alors qu'en fait, ça avait été pensé et développé comme une seule grosse collection qu'on avait ensuite découpée. Donc ensuite, quand on est passé à la collection capsule vraiment concrétisée, il n'y avait pas vraiment de changement radical dans nos communications. Enfin, c'était quelque chose qu'on avait déjà introduit.
C'était hyper naturel.
Hyper naturel.
Ok. Et l'univers, donc l'histoire.
Et du coup, l'univers de la marque Coralie Marabel, c'est. Moi, je parle souvent de trois valeurs. C'est arty, crafty et playful. Arty, c'est plus pour tout ce qui est... c'est des silhouettes assez minimales, assez architecturales. Il y a beaucoup de mes inspirations artistiques qui se ressemblent dans mes vêtements. Crafty, c'est pour tout ce qui est travail de la main. Moi, je travaille beaucoup sur le travail de la matière. Je fais beaucoup de recherches textiles. Donc, il y a toujours ce travail de la main qu'on va retrouver dans les vêtements. Et playful, c'est le côté un peu ludique, avec des couleurs très, très fortes, des volumes un peu avec des très ronds, un peu souvent ça me fait penser à Pierrot ou des choses comme ça, tu vois.
D'accord. Et comment tu te positionnes dans ce marché qui est énorme? Il y a tellement d'offres aujourd'hui et des choses très différentes. Comment tu te positionnes, toi? Est-ce que tu te positionnes déjà ou pas du tout? Est-ce que tu regardes les autres ou pas? Est-ce que tu te mets sur la carte de la fashion sphere?
En termes de positionnement, on va dire plus quand on parle de positionnement prix, on est sur du luxe accessible, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on n'est pas dans les prix de Céline et Valentino, mais on est plus sur des prix comme Isabelle Marant, Jacques Musse, donc c'est du luxe accessible. Et en termes de vêtements, on est sur des vêtements créatifs, mais faciles à porter. Ça, c'est très important. C'est que vraiment de garder ce côté facile à porter. Et c'est vrai qu'au début, on avait du mal. Ça n'était pas assez clair dans nos communications, dans nos images. On avait beaucoup de retours où les filles nous disaient oh, c'est trop beau, j'adore, mais je crois que c'est pas pour moi. Ou
c'est insupportable.
Je suis pas sûre d'assumer, d'arriver à le porter. Et dès que les nanas venaient essayer, dès qu'elles venaient en boutique, bim, elles disent mais en fait, ça me va trop bien. En fait, c'est hyper facile à porter. Il y a un vrai. C'est pour ça aussi qu'on a poussé la vente en direct. C'est que dès que les filles venaient essayer, il y avait
un crush
et elle se rendait compte qu'en fait c'était pas too much et que c'était hyper facile à porter et que c'était pour elle en fait.
Et comment tu trouves cet équilibre alors dans la photo sur Instagram?
C'est un travail petit à petit où on essaye d'être un peu plus compréhensif, pas trop edgy, pas trop pointu, enfin de trouver le bon équilibre, de rester mode et dans le choix de la fille, dans l'attitude, dans le styling, de pas être dans un truc trop compliqué. En fait, faut arriver à se dire est-ce que la cliente, elle peut se projeter dans cette image, est-ce qu'elle va se dire cette silhouette je pourrais la porter.
Je trouve qu'il y a une marque qui le fait vachement bien, ça, c'est Marques Almeida à Londres, qui sont un petit peu sur ce créneau-là. C'est hyper créatif, mais ça reste hyper accessible. En prenant des filles de tous les jours qui ne sont pas forcément des mannequins professionnels.
Exactement.
Et ils le font vachement bien.
Et nous, d'ailleurs, on prend justement, c'est un peu pareil en fait, on ne prend pas de mannequins professionnels, on prend que des vraies filles.
Et comment vous les trouvez, ces vraies filles d'ailleurs?
On les cherche.
Vous stalkez Internet?
On stalke Insta à fond et parfois on les rencontre, parfois.
Et tu leur vends quoi comme truc? Parce que ça coûte de l'argent, j'imagine que tu les payes quand même ces gens. Tu leur expliques l'histoire et elles tombent amoureuses de l'histoire pour.
Ouais, souvent c'est ça. En fait, l'idée c'est d'avoir des muses. En fait, chaque mois une nouvelle muse qui va incarner la marque. Et à chaque fois qu'on raconte l'histoire, enfin jusqu'à présent, en fait, les filles qu'on aborde et on leur dit voilà, on aimerait que tu sois la muse du mois prochain, que tu incarnes cette collection et qu'on te mette en avant. Elles sont trop contentes parce que
c'est hyper gratifiant.
Parce que c'est pas juste un corps. Enfin, tu vois, on les nomme, on les met en avant sur Insta. Enfin, on
et
les valorise.
Des filles qui ont des skills aussi, non? Qui ont qui font des choses.
Souvent c'est des filles qui ont aussi un profil assez créatif. C'est soit des artistes, soit des stylistes, soit des. On avait une brodeuse le mois dernier. Enfin, c'est on les choisit pas juste pour leur physique. On les choisit aussi pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles dégagent, pour ce qu'elles incarnent en fait. Et ça, c'est très important.
Quand tu construis ton enfin déjà tes prix, ces prix, ça sort d'où? C'est, vous dites, on veut se positionner là-dessus. Explique-moi la politique de prix. Pourquoi ce prix-là, quoi?
Pour un vêtement?
Ouais.
Bah, c'est deux choses. C'est combien ça nous coûte et à quel prix on va le vendre pour gagner de l'argent et pas en perdre.
Ouais.
Donc déjà, tu as un prix qui se fixe tout seul comme ça. Et après, il y a aussi qu'est-ce qui est cohérent, en fait. C'est-à-dire que est-ce que on se pose la question, à quel prix t'achèterais cette pièce? Tu vois, donc
c'est
là,
assez c'est simple.
C'est assez simple.
Ouais.
Et il faut que ce soit cohérent, en fait. Ouais. Tu vas pas avoir des prix. Il faut pas que ce soit complètement que tu aies des pièces à 3000 euros et d'autres à 150. Donc, enfin, tu peux, mais alors il faut que vraiment ça se justifie.
Une grosse différence.
Donc, c'est déjà se poser la question à quel prix nous on l'achèterait.
Ouais.
Et par rapport à notre positionnement prix, ou à quelle marque on veut être, quels sont les prix cohérents. Ça aurait pas de sens de vendre une pièce à 50 euros alors qu'on veut fabriquer en France avec des belles matières. Enfin, voilà. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre entre le coût du vêtement et puis le prix en termes de positionnement, où est-ce qu'on veut aller.
Ouais. Et est-ce que justement ces prix ont changé à partir du moment où vous êtes passé du wholesale à la vente directe? Est-ce que vous avez réajusté un petit peu vos prix?
Complètement.
Ouais.
On a justement recentré notre stratégie en passant à la vente directe. On a pu baisser un peu nos prix et d'avoir justement d'être un peu plus accessible, parce que quand on était en wholesale, vu qu'on faisait du made in France au wholesale avec la marge des magasins.
C'est quoi la marge des magasins déjà?
Ils prennent entre 2,5 et 3.
Donc, ils multiplient le prix d'achat qui t'achète à toi par 2, 5
ou 3. Donc, 3. Ça monte très, très vite.
Ouais,
en
ça
fait.
Va super vite. Ouais.
Et la difficulté, que quand tu fais du Made in France, tu as des produits qui te coûtent cher à fabriquer. Donc, quand tu fais du wholesale, du coup, ça te fait tu montes vite dans des prix plus élevés.
Ouais. Je regarde mes questions. Est-ce que vous avez beaucoup de retombées presse? Est-ce qu'on parle beaucoup de vous dans la presse?
Oui, en fait, on a la chance, c'est que avec le festival de hier, j'avais eu pas mal de presse.
Ouais.
Après, j'ai gagné le prix L'Oréal Fashion Grant.
Ouais.
Après, j'ai gagné le Grand Prix de la création de Paris.
Ah ouais, toi, t'es une bête de compète.
J'adore
quoi.
Les concours.
Mais ça t'apporte vraiment énormément, tu penses en...
Alors moi, ça m'amuse beaucoup déjà.
Toi, ça t'amuse. Ouais.
Parce que pour moi, c'est un jeu. Et en plus, c'est tout bénéf. C'est-à-dire que quand tu gagnes, même quand tu gagnes pas, t'as de la visibilité. Donc tu gagnes en visibilité. On parle de toi, t'as de la presse sans avoir rien à faire.
Ouais. Et ça ramène vraiment des clients, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis nous, ça montre aussi que ta marque, elle grandit, qu'elle est encore là, qu'elle existe. Que...
Donc tu conseillerais à tous les créateurs de le faire?
Ah bah ouais.
Ouais. Pourquoi se priver? Ce serait dommage. Ouais.
Bah ouais, parce qu'en fait, tu gagnes de la com et de l'argent sans rien faire. Si, ça demande du boulot, mais...
Ouais, mais tu fais tes collections quoi qu'il arrive, donc
voilà. C'est juste, c'est sûr que c'est pas facile. Il faut se mettre devant un jury, il faut se présenter, il faut se défendre. Tu te fais un peu challenger, mais au final, tu peux gagner une bourse, tu peux gagner de la visibilité au niveau des gens du jury, au niveau de la presse et du grand public quand t'as des articles qui sortent derrière.
Ouais.
Donc nous, c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que la marque existe.
Ouais. Grâce à ces concours, vous avez vachement retombé presse, quoi.
On n'a jamais eu de bureau de presse jusqu'à maintenant.
Ouais.
On a toujours utilisé ces... on a eu de la presse parce que les stylistes venaient chercher des pièces pour des magazines. Donc on l'a développé tout seul.
Ouais.
Et toutes les parutions qu'on avait, ça venait tout seul, en fait.
Et vous avez mis en place une stratégie Insta et Facebook sur les réseaux sociaux. Comment vous le gérez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fait accompagner?
Non, ça, on le gère tout seul, les réseaux sociaux.
Ouais. Et la stratégie, parce que moi, je te suis depuis un petit bout de temps, puisqu'on a fait la même école, etc.
Ouais.
Et je t'ai toujours regardé un petit peu de loin. Et je sens bien que ça a vachement évolué. Au début, tu mettais pratiquement que des photos de shooting. C'était...
Ouais.
Et aujourd'hui, tu fais rentrer les gens dans tes moodboards, tu expliques beaucoup plus.
Ouais.
Tu essayes de travailler un copywriting aussi personnel avec tes clients.
Ouais.
Comment t'as appris, comment c'était quoi le cheminement pour ça?
Bah, je pense que tu t'apprends le faisant petit à petit, puis après tu analyses ce que tu as fait avant et tu dis bah là en fait voilà, il y avait que des images trop lisses de shooting, du coup c'est chiant, on a envie d'avoir du work in progress. Enfin, c'est aussi quand par exemple quand les gens viennent à mon atelier qui voient tous mes boards avec mes images, avec mes collages, avec mes maquettes, sur la... oh, ils ont des paillettes dans les yeux et c'est vrai que moi c'est mon quotidien donc ça me paraît normal, mais pour les gens qui sont pas dans cet univers quand ils voient ça,
ils hallucinent.
Ils adorent. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne montre jamais dans les maisons.
Non.
Parce que c'est du work in progress, c'est
confidentiel.
C'est confidentiel.
Faut en parler, ouais.
Donc c'est difficile. Il faut arriver à montrer des choses sans trop montrer ou montrer qu'au bon moment quand les pièces sortent. Enfin, faut trouver. Et c'est vrai que moi, le côté, le work in progress, tout mon travail créatif, c'est une partie que je trouve hyper intéressante dans mon travail et que je trouve importante de montrer parce que ça intéresse beaucoup les gens. Et du coup, quand tu montes tout le processus pour faire une pièce, les gens y comprennent. Enfin, je trouve ça beaucoup plus personnel.
C'est la transparence que les gens veulent avoir, c'est l'authenticité.
Et puis c'est génial. Enfin, même moi, quand je vois mes maquettes, excitant, je trouve ça génial. Il faut les montrer.
Ouais.
Et du coup, on a amené ça petit à petit dans l'Instagram, d'essayer d'être plus personnel. Et l'idée, c'est c'est jamais fini. Enfin, on a encore à améliorer plein de choses. Ouais. Mais petit à petit, c'est vraiment de plonger les gens dans l'univers de la marque.
Et tu sens qu'il y a vraiment eu un impact en changeant ça. T'as vu le nombre de followers et le nombre d'interactions évoluer?
Là, de plus en plus. Depuis surtout qu'on est passé aux capsules mensuelles et que vraiment chaque mois on fait une histoire différente. Et du coup, chaque shooting est pensé en fonction de la collection. Donc, si tu veux, tout est beaucoup plus abouti, beaucoup plus réfléchi de A à Z. Et du coup, dans la com aussi, on anticipe plus qu'est-ce qu'on va poster, quelle va être l'histoire de la collection, du coup, quelles images je vais vouloir faire pour raconter l'histoire. Et voilà, et à chaque fois, c'est quand je poste sur Instagram, je vais me dire, je vais pas montrer que des images de shooting, je vais montrer aussi des photos de l'atelier, des photos d'inspi.
Et tu fais appel à des influenceuses? T'essayes de travailler ça?
Alors, jusqu'à présent, on l'a pas fait,
mais
on va commencer à le faire, là.
J'ai l'impression que c'est un vrai impact sur ta communauté.
En fait, nous, jusqu'à présent, on le faisait un peu sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il y avait des influenceurs qui nous contactaient, qui étaient intéressés par la marque, des gens ou des chanteurs, des gens qui voulaient porter nos tenues pour la scène. Donc, en fait, on le faisait juste spontanément, en fonction des rencontres qu'on faisait. Et là, on va essayer de le faire un peu plus, justement, parce que c'est un super moyen pour gagner en visibilité. Nous, ce qu'on a besoin de développer maintenant, c'est notre visibilité, en fait. C'est d'être plus connu.
Ouais, parce que maintenant, vous êtes relativement en place sur le mécanisme, quoi.
Voilà,
sur le processus. Vous avez trouvé votre modèle.
C'est ça.
Maintenant, il faut prendre de l'ampleur.
Maintenant, il faut dérouler, il faut gagner en visibilité pour faire venir des gens dans nos boutiques, pour faire connaître la marque. Maintenant, le modèle est assez clair. On a bien mis les choses en place et maintenant, il n'y a plus qu'à...
Donc, c'est quand même un long processus de trouver son modèle, trouver son équilibre, trouver sa place. C'est hyper lourd.
Surtout que moi, tout est allé assez vite finalement. Et je me suis retrouvée à lancer ma marque sans l'avoir anticipé.
C'était pas un truc qui a été mûri pendant des années et des années, quoi.
C'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire, mais je savais pas à quel moment j'allais le faire. Et quand je l'ai fait, j'avais pas pensé à mon business plan, à mon modèle, à tout ce qu'il y a derrière. Enfin, moi, je pensais juste, je vais créer ma marque et je vais créer point barre. Je pensais pas à tout ce qu'il y avait derrière.
Et j'imagine que tu as eu des moments de doute aussi, quand même, dans toute cette période-là. Comment tu les gères? Est-ce que tu en as eu ou pas? Psychologiquement, comment ça se passe?
Des moments de doute, je pense qu'on a toujours.
Et
c'est, et puis c'est propre à notre métier aussi, de créatif. On se pose des questions tout le temps. J'ai toujours été sûre que. Enfin, je crois beaucoup à la marque et j'ai pas de doute là-dessus. Après, c'est plus au quotidien, quand tu fais des choses, tu peux dire parfois tu fais des choses, tu dis, en fait, on n'aurait pas dû le faire, ou tu fais pas des choses et tu regrettes pas. Enfin, tu vois, tu t'avances un peu à tâtons et c'est en faisant les choses que tu te rends compte si t'es allé dans la bonne direction ou pas.
Ce qui est en plus assez violent avec toi, c'est quand même que tu as mis ton nom, ton propre nom, ton prénom et ton nom de famille sur l'aventure de la boutique. C'est hyper violent parce que chaque critique, c'est pour toi, quoi.
Ouais, ça, c'était pas toujours évident au début. Parce qu'encore une fois, j'ai lancé ma marque avec mon nom parce que j'ai postulé au Festival de Hier avec mon nom.
Oui.
C'était pas un, je me suis pas dit alors demain quel sera le nom de ma marque. Ouais. C'est juste qu'après avoir fait le festival de hier avec mon nom et que j'avais eu de la presse avec mon nom, ouais. Soit je gardais mon nom, soit je repartais à zéro avec un nom de marque qui n'avait rien à voir et du coup en termes de com, fallait repartir à zéro. Mmh. Donc j'ai continué avec mon nom.
Tu le ferais différemment aujourd'hui ?
Peut-être. Je ouais. sais pas. Maintenant, ça, au début, il y a eu une phase où je me suis dit j'aurais peut-être dû prendre un autre nom parce qu'en fait, c'est un peu schizophrénique au début. Hein.
Ouais. Comment tu l'appelles d'ailleurs la marque ?
Parce que je l'appelle, je lui donne mon nom.
Ouais. Coralie Marvel, parce qu'il y avait Vanessa Sivard, elle me disait je l'appelle VS.
Ah ouais. Non, non, mais moi j'ai eu une phase un peu difficile où c'est vrai que quand tu te fais des, tu prenais des critiques, c'était dur de pas le prendre personnellement en fait, parce que c'est faut arriver à distinguer moi ouais. personnellement et la marque. Ouais. Et une phase où vraiment c'est, parfois c'était pas évident de.
Bah, moi, voilà. je vois déjà à mon niveau, quand on me fait une critique sur Entreprendre à la mode, ça me pique au vif.
Ouais.
Alors, j'imagine quand c'est ton nom de famille, enfin ton ouais, nom. Ouais. Et puis c'est vachement engageant pour le reste de ta famille aussi, je
ouais.
veux dire.
Ouais.
Comment ils le vivent d'ailleurs, ça ?
Ils sont plutôt fiers. Ça les dérange pas trop.
Ok. Aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez autofinancé jusqu'à présent. Est-ce ouais. que vous avez levé des fonds maintenant ?
Ouais. ouais, on a fait une petite levée de fonds l'année dernière.
Ouais.
De Friends and Family.
D'accord.
Ouais.
Ok. Et c'était des gros volumes ou c'était pour l'instant c'était vraiment pour financer la trésor ?
Ouais, c'était d'accord. pour nous aider à avoir un peu plus d'argent pour continuer à nous développer, à mettre en place la nouvelle stratégie.
Et, ouais. et aujourd'hui, en termes d'équipe, vous êtes combien ? Parce que vous êtes toujours que tous les deux ou
alors, on est un petit peu plus. Ouais. On est en ce moment, on est 5.
Ouais. Et c'est quoi comme poste ? Vous avez recruté sur quel type de poste ?
Alors, moi, j'ai deux personnes qui m'aident à l'atelier mmh. sur tout ce qui est développement des patronages, des maquettes, toute la recherche créative, en fait.
Ouais, ouais.
Et Antoine, il a quelqu'un qui l'aide sur la prod. Mmh. Et là aussi, on a quelqu'un qui commence en com mmh. pour nous aider. Jusqu'à présent, on a toujours fait la com tout seul et... Et là, on va prendre quelqu'un en renfort pour parce que c'est
l'honneur de la guerre. Là,
ouais. Et puis en fait, si tu veux bien le faire, il faut y passer du temps. Et donc, on a envie d'y mettre plus de temps.
Mmh. Et c'est des gens qui sont intégrés, c'est des stagiaires, c'est des freelances.
Stagiaires. On a eu des stylistes freelance aussi ouais, ouais. Pendant longtemps. Et là, ça dépend. En fait, il y a des périodes où on prend, on travaille avec des modélistes en freelance.
Ouais.
Il y a pas mal de gens en free qui viennent ponctuellement nous aider à des périodes très précises. Mmh. Et sinon, on a des stagiaires.
D'accord.
Mmh. Pour le moment, on n'embauche pas encore.
Ouais. Ok. J'aimerais qu'on parle de ton équilibre dans tout ça parce que en fait, toi, tu as fait un peu tout en même temps. Mmh. tu as monté ta boîte, tu as eu un enfant. J'imagine que tu as dû te marier aussi un moment. Comment tu trouves ton équilibre ? Comment tu arrives à ne pas être en burn-out systématique ? Parce que quand tu montes ta boîte, tu as l'impression que les gens ils bossent comme des tarés nuit
ouais.
et jour.
Ouais.
C'est quoi ta soupape de sécurité ?
Ça vient petit à petit. C'est pas venu. J'étais pas méga organisée dès le début. Je pense qu'une des forces que j'ai eues, c'est qu'en faisant mon expérience chez McQueen, j'ai appris à travailler mais comme une tarée. Mais à développer des capacités de travail que jamais j'aurais envisagé. Mmh. À travailler nuit et jour, pas dormir, enfin, c'était un rythme de taré. Et en fait, c'était un super exercice, dans le sens où quand je suis sortie de McQueen, je me suis dit, mais en fait, rien n'est impossible. Mmh. Genre, j'ai tellement travaillé que maintenant, plus rien ne me fait peur. Et donc, une grosse charge de travail, c'est pas un problème. Donc, j'ai commencé en créant ma marque, en travaillant beaucoup. Mais c'était pas j'étais à fond, enfin c'était pour moi
c'était pas un
super...
fardeau ouais.
c'était pas un fardeau parce ouais. que j'étais en train de réaliser mon rêve donc c'était ouais. c'était trop bien. Après c'est sûr que c'est un rythme important mais ouais. Moi je le faisais, c'était un choix donc c'était pas subi. Et quand tu fais pour toi, quand tu fais pour ta marque, tu comptes pas tes heures, tu t'en fiches.
Ouais.
Donc au début j'ai commencé à travaillant beaucoup et j'étais pas très organisée, j'étais toute seule au début donc je gérais tout dans tous les sens, enfin c'était j'étais un peu stressée, c'était un peu t'apprends sur le tas en fait quand tu crées une marque.
Oui,
en fait tu te rends pas compte,
ouais.
Il y a plein de choses que t'as pas anticipé de gérer la prod, je le faisais pas quand je travaillais dans des maisons de luxe par exemple,
bah oui.
ça c'est un gros morceau à mettre en place, gérer la com, gérer ta finance, tu gères tout au début donc c'est un peu
t'es vraiment tout seul au début.
T'es vraiment tout seul Après, quand Antoine est arrivé, j'ai pu lui déléguer des choses et lui, il m'a aidé à mieux me structurer sur plein de choses. Mmh. Et puis après, le fait d'avoir un enfant, ça a beaucoup aidé. Parce que ça m'a permis de faire pendant le congé mat, ça m'a permis de faire une petite pause. Mmh. Et c'est vrai que ça faisait peut-être 5 ans que je bossais comme une tarée sans m'arrêter. Mmh. Et ça m'a fait du bien de prendre du recul et de juste de faire une pause, alors que ça faisait 5 ans que je faisais pas de pause en fait. Mmh.
Mais il n'y avait pas de collection pendant ce temps-là ?
Si, mais je le faisais en bossant de chez moi, à distance. Mmh. Donc rien que le fait d'être chez moi et de ne pas être dans mon quotidien habituel, mmh. ça m'a fait prendre l'air. Mmh. Et en reprenant le boulot, je suis repartie sur des meilleures bases, beaucoup plus organisées. Mmh. Et quand t'as un enfant, en fait, t'es obligé d'être organisé parce que tu peux pas rester au taf tard, tu peux pas bosser le week-end. Enfin, t'es obligé d'être beaucoup plus organisé qu'avant parce que tu dois avoir un temps boulot et un temps famille. Et du coup, t'es obligé quand sur ta période de boulot, tu dois être beaucoup plus efficace si tu veux arriver à en faire autant qu'avant.
Ouais, tu mets des contraintes. C'est un peu comme les concours.
Ouais. Mais du coup, c'est génial.
Tu sais que tu dois aller récupérer ton petit...
Bah ouais, mais du coup, je travaille 10 fois mieux. Ouais. Je suis beaucoup plus efficace. Ouais. Je ne perds pas de temps sur les trucs inutiles.
Mmh. Et peut-être des outils de productivité. J'aime bien demander cette question. Qu'est-ce que tu fais qui te permet d'être beaucoup plus productif à part les contraintes naturelles d'avoir ton enfant ton enfant surtout.
Bah là, j'ai mis en place un truc tout bête, mais d'avoir un agenda très carré. Ouais. Ce que je faisais pas vraiment avant, mais sans m'en rendre compte. Et là, maintenant, c'est je liste toutes les choses que je dois faire, les choses que j'ai envie de faire. Je fais un ordre de priorité et je remplis mon agenda. Mmh. Et maintenant,
t'allotes du temps pour chacune de ces tâches.
Ouais. D'accord. Et des choses, du temps pour moi aussi. Mmh. Ce que je faisais pas avant.
Et tu le mets dans ton agenda.
Et je le mets dans mon agenda. Avant, je prenais pas beaucoup soin de moi et je bossais. Et maintenant, dans mon agenda, il y a mes cours de yoga, mes cours de. Il y a aussi ces temps de récupération, tu vois.
Ouais. Et ça te permet d'être 10 fois plus productif et, et beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus.
Ouais, ouais. Beaucoup et plus beaucoup, zen, plus, quoi. Beaucoup plus épanoui parce que quand tu fais que de bosser, t'es là, j'aimerais bien faire du sport ou j'aimerais bien voir des copains ou j'aimerais bien. T'as toujours des frustrations de choses que tu fais pas. Mmh. Et du coup, maintenant, j'arrive à tout faire.
Ouais. Et ça, tu t'es fait accompagner pour trouver cet équilibre-là ?
Ouais, bah, je me suis fait coacher cet été justement par une coach de vie. Ouais. Et ça a été super bénéfique parce que j'ai mis en place plein de choses pour pour mieux gérer mon temps et être beaucoup plus efficace et d'être plus épanouie dans ma vie en fait.
Ouais. Mais ça c'est hyper important et je suis super content que t'en parles parce que c'est, souvent les gens veulent pas, enfin on parle pas forcément, ils disent pas qu'ils sont coachés, mais avoir une aide extérieure qui te permette d'avoir une cartographie de ta vie, etc., et avoir un feedback à froid, parce qu'en général, les coachs de vie, ils sont. C'est pas ton frère, c'est pas ta mère, c'est pas ta meilleure amie, etc., c'est quelqu'un qui est neutre, et ce qu'elle va te dire, tu vas pas le prendre mal, parce qu'elle est à froid, il n'y a pas de sentiment, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Et je trouve que c'est. Je sais pas si tu nous recommandes quelqu'un en particulier, ça serait cool, je pourrais le mettre dans le lien.
Ouais.
Mais.
Moi, je me suis fait coacher par Jenny Chamas, qui était une amie que j'ai connue en stage chez Hermès, qui a travaillé 10 ans dans la mode et qui a complètement changé de voie l'année dernière et qui s'est reconvertie en coach elle-même. Elle avait un gros job en merchandising chez H&M. Elle avait beaucoup de gens à gérer, 2 enfants, une grosse carrière et du coup, elle avait du mal à jongler avec tout ça. Elle s'est fait coacher et puis elle est tombée dans la marmite et elle est devenue coach. Ouais. Et moi, en fait, elle m'a coachée juste après ma grossesse. Mmh. Et c'était le moment où je reprenais le boulot. Mmh. Donc, j'avais envie de repartir sur des bonnes bases. Donc, ça tombait bien. Mmh. J'avais pas de problème en particulier dans ma vie, mais j'avais envie d'essayer d'être mieux organisée qu'avant. Et
de mieux vivre, quoi. Ouais.
Voilà, j'avais envie de continuer à bosser à fond pour ma marque, tout en étant maman. Et de pas avoir de frustration de trop bosser ou de passer de temps avec ma fille. Et de trouver un bon équilibre. Et en fait, du coup, j'ai mis en place tous ces process d'organisation, d'agenda, de mieux s'écouter aussi. Parce que moi, c'est vrai que je suis plutôt du genre à faire tout pour les autres et pour la boîte et pas beaucoup pour moi. Mmh. Et du coup, j'ai mis tout ça en place et maintenant, je suis trop contente. Parce que j'arrive à passer plus de temps sur la créa, c'est ce qui m'intéresse. Mmh. Je suis beaucoup plus organisée au bureau. Mmh. Je fais plus la distinction entre. Avant, je passais mon temps à répondre aux mails au tac au tac. Maintenant, je check très peu mes mails.
Ouais, une ou deux fois par jour, ça suffit. Ouais.
Et avant, pour moi, c'était pas envisageable de pas répondre à un email. Fallait tout le temps répondre à tout le monde et répondre de tac au tac. Maintenant, il y a beaucoup d'emails auxquels je réponds pas. Je réponds que ce qu'il y a ou quand c'est vraiment important et je suis pas obligée de répondre dans la minute, tu vois. Du coup, je me suis déchargée de plein de fardeaux que j'avais avant. Et maintenant, ma priorité, c'est de créer et de faire ce qui m'amuse au final. Et tout le reste, voilà, beaucoup plus carré.
Trop cool.
Ouais.
Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est un des gros points, c'était l'ouverture de la boutique quand même. Parce
ça, c'est la grosse actuelle.
Ouais, la grosse actuelle du moment. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots quand même? Parce que je sais que vous avez fait des travaux, vous avez fait un truc bien, en fait,
on a ouvert notre première boutique le mois dernier. Donc ça, c'est la grosse nouvelle de la rentrée. On est trop contents. Donc on a lancé ce projet en juin, on a fait des travaux tout l'été et on a ouvert mi-septembre. Donc nous c'était important vu qu'on a développé du coup la vente directe et la vente online en ayant fait plein de pop-up stores l'année précédente. On s'est rendu compte que c'était hyper important d'avoir un lieu pour recevoir nos clientes et que dès que les gens venaient voir les pièces en vrai, essayer, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et qu'il fallait qu'on ait un point de vente. Donc là, ça a ouvert. On a vraiment fait des super travaux. Ouais. On a vraiment fait une espèce de cocon tout blanc avec des jeux de lignes et de textures et de courbes. Enfin, c'est un bel endroit. On est hyper contents. Et c'est surtout un endroit où on peut maintenant recevoir bien nos clientes.
Leur faire comprendre la marque.
Ouais, voilà. Et les rencontrer, c'est ça qui est hyper important aussi. C'est que depuis qu'on s'est concentré sur la vente directe, on se parle à nos clientes et on fait des événements pour nos clientes et on les rencontre et on a une relation hyper privilégiée et ça c'est assez génial, c'est qu'on a des clients très fidèles qui, enfin tu vois, avant quand tu fais du wholesale, t'envoies un carton de fringues au Japon, tu sais pas si les gens sont contents, tu sais pas si c'est bien coupé, tu sais pas si la matière plaît, enfin t'as pas de retour, c'est hyper frustrant. Alors que là en travaillant en direct, quand on vend des pièces à des clientes, limite moi je reçois des textos de clientes mais géniaux, c'est-à-dire que j'ai des clientes qui me disent, voilà, j'ai mis la jupe à un mariage, le père de la mariée est venu me voir en me disant que j'avais voulu la vedette tellement ma jupe était belle, la semaine dernière j'ai une autre cliente qui me dit, j'ai mis mon trench, je me suis fait arrêter dans un restaurant, le serveur m'a dit que j'avais un super beau trench qui m'allait trop bien, là j'en ai une autre qui m'a dit, ah, j'ai mis la robe à un mariage, j'ai compris l'importance d'avoir des belles pièces parce que je me sentais, ça a développé un certain côté de ma personnalité, je me sentais, je voyais bien que tout le monde me remarquait, ça m'a mis en confiance. Enfin, j'ai plein de retours.
Mais je vois que du positif en fait en passant en direct quoi.
Ouais.
Et la grande question c'est, est-ce qu'il faut arrêter le wholesale quoi?
Moi, je pense que oui. Mais après il y a pas de règles. Il y a d'autres marques qui font que du wholesale et ça leur correspond très bien, tu vois. Je pense que faut surtout essayer de trouver son schéma qui nous correspond quoi.
J'ai l'impression qu'il faut être un gros mastodonte si tu veux faire du wholesale aujourd'hui. Il faut s'appeler Balenciaga, Céline et Yves Saint Laurent, sinon quand tu es un jeune créateur,
faut avoir beaucoup d'argent.
Sauf qu'en général, on n'a pas beaucoup d'argent quand on commence quand même.
Moi, je pense que la vente directe, c'est génial parce que c'est hyper gratifiant, en fait. Quand tu fais des vêtements et que tu vois tes clientes les porter et que tu as des retours et que ça te donne trop envie de continuer. Et puis, tu prends pas autant de risques quand tu fais du wholesale.
Trop bien.
Et rien ne t'empêche, après, de faire du wholesale. Et nous, d'ailleurs, on n'est pas complètement fermé au wholesale. Et l'idée, c'est d'y revenir dans un second temps. Tu vois, les magasins, ils ont besoin d'animation, de faire des choses différentes. Nous, on fait une capsule mensuelle. On pourrait très bien imaginer la capsule du mois de décembre en exclusivité aussi au bon marché. Ou tu vois, le wholesale, on n'est pas du tout fermé et hermétique. C'est juste que...
ça va se faire différemment.
Ça va se faire différemment. Et c'est pas notre priorité dans l'immédiat.
Ok, ça fait bientôt, enfin, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble déjà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses dont on n'aurait pas parlé, qui seraient importantes de parler?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, on a fait le tour. Okay.
Non, je pense que si, je redirais un truc que j'ai repensé ce matin. Quand je travaillais avec Jean-Paul Gaultier, un jour, je lui avais demandé un conseil justement pour le concours que je faisais. Et sur le coup, j'avais trouvé ça un peu bateau comme réponse, mais après coup, je trouvais ça assez juste. Je lui ai dit, mais quel conseil vous me donneriez? Il m'avait dit, n'écoute que toi, Et fais pas attention, il y aura plein de gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont t'empêcher. Et surtout, écoute-toi et fonce, tu vois. Et par exemple, lancer sa marque, moi, plein de gens m'ont dit ne le fais pas, parce que pour plein de raisons.
Toutes les raisons du monde, ouais.
Et en fait, ça aurait été une connerie de pas le faire, parce que moi, c'est là où je m'épanouis, c'est je m'éclate. Je suis trop contente d'avoir lancé ma marque, je suis trop heureuse comme ça. Et je sais que ça va marcher, tu vois. Et trop souvent, les gens te mettent des peurs, te mettent des bâtons dans les roues.
Ils projettent leur peur.
Ouais, voilà. Et il faut juste, faut écouter, mais il faut aussi se faire confiance et il faut foncer, tu vois. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est la pire des choses, tu vois.
Ok. Et dernière question pour clôturer l'interview. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah là là, je n'ai pas préparé la question.
Aïe.
Bah tiens, toi, tu parlais de Demna tout à l'heure, ça pourrait être intéressant.
Ça marche, je lui pose des questions.
Ok.
Je lui envoie un petit email. À bientôt.
À bientôt, merci.
Salut, ciao. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.